call on President Trump.
J'exhorte donc instamment le président Trump de se présenter à la télévision nationale dès aujourd'hui pour remplir sa promesse et défendre la Constitution.
Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez chez vous et restez calme.
Go home and go home in peace.
Et on va bien sûr revenir ce matin sur les événements qui ont marqué les États-Unis hier soir, manifestations violentes qui ont amené à l'invasion du Capitole, le siège du Parlement fédéral américain à Washington. Bonjour Mehdi Kelfat.
Bonjour.
Vous êtes responsable éditorial Monde à la RTBF. Première question Mehdi, qui étaient ces personnes qui ont envahi le Capitole?
Alors c'est un agrégat de personnes avec des profils assez différents. Alors il y a d'abord les électeurs traditionnels de Donald Trump, grâce à qui il a pu créer la surprise il y a 5 ans lors de la primaire républicaine, puis lors de l'élection, qui se sont investis corps et âme pour sa campagne électorale, des gens de la classe moyenne blanche américaine, mais aussi beaucoup de gens laissés pour compte de la mondialisation, des blancs qui sont aujourd'hui en grande difficulté sociale notamment, qui travaillent dans le monde industriel et qui ont vu leur emploi, leur job disparaître en lien avec cette mondialisation. Des gens qui peu à peu se sont déconnectés des médias traditionnels, qui ne croient qu'en une vérité, celle du président, et qui refusent le système tel qu'il est, des gens qui ont fait beaucoup de kilomètres pour répondre à l'appel de leur président. C'est le cas de Teresa qui est venue du Michigan. Écoutez ses arguments.
Le système dysfonctionne depuis longtemps. Le président Trump nous a donné une voix. Nous allons devenir un pays communiste si Biden gagne. Je pense qu'il y aura même une guerre civile. Regardez tous ces gens. Ils ne vont pas continuer à accepter bien longtemps cette situation. Cette élection a été une fraude. Les démocrates ont choisi qui allait gagner. Ils ont triché. Je ne sais même pas si on pourra encore voter un jour. Ça n'amène rien de bon.
Voilà, des tricheurs, des voleurs, des communistes, bref, de l'excès dans le langage, et ils sont très nombreux à partager ce type d'arguments, et notamment une femme qui a perdu la vie. Il y a eu 4 morts donc, lors de ces faits hier soir, et une femme a perdu la vie blessée par balle à l'intérieur du Capitole. Elle s'appelait Ashley Babbitt, elle était une ardente partisane du président Trump qui vivait, elle, dans le sud de la Californie, du côté de San Diego. Sur son compte Twitter, Ashley Babbitt se présentait comme une patriote, hein, une ancienne combattante et libertarienne, et affichait son amour pour son pays.
Bon, il y avait aussi des groupes plus organisés lors de ces événements.
Oui, avec 2 mouvances. La mouvance complotiste d'abord, autour du groupe QAnon, et l'autre mouvance, la mouvance d'extrême droite identitaire. Notamment les Proud Boys, des groupes issus de la mouvance identitaire nationaliste et islamophobe de la droite alternative. Jusqu'à la victoire de Donald Trump, ils se cantonnaient à présence sur le web, mais depuis l'été dernier, ils ont fait bruyamment campagne pour la réélection du républicain. Pendant l'été, ils ont organisé des caravanes pour Trump, des cortèges 4x4 qu'ils amenaient armés de fusils à assaut, de paintball au cœur des villes plutôt progressistes aux États-Unis. Et puis Donald Trump leur avait fait même un clin d'œil, il leur avait demandé de se tenir prêt lors du premier débat télévisé, souvenez-vous. Mais donc, quand on prend l'ensemble de tout cela, chaque personne a présenté en fait une façon d'être radical, a tenté d'exprimer à sa façon un certain extrémisme pro-Trump.
Ouais, très peu de masques hein, aussi dans ces personnes, on peut le relever aussi Mehdi Kelfat. Comment sont-ils parvenus, ça c'est quand même la question aussi qu'on se pose ce matin, comment sont-ils parvenus à rentrer dans le Capitole, hein, qui est le cœur de la démocratie américaine.
Et puis c'est le cœur de la ville de Washington, puisque la ville elle est bâtie autour de ce lieu, sur une petite colline. Le Capitole domine l'ensemble des bâtiments, il n'y a pas de bâtiment qui est au-dessus du Capitole, parce que c'est vraiment le symbole de la démocratie du peuple, avec la Chambre des représentants d'un côté, le Sénat de l'autre. Alors le Capitole, il a ses propres forces de sécurité, la police du Capitole. Il y a aussi des milliers de policiers de Washington qui avaient été mobilisés en lien avec la manifestation organisée par Donald Trump. Le département de la police métropolitaine de la ville avait déployé la totalité de ses 3750 agents disponibles. Et bien pourtant, on n'est pas parvenu à arrêter les manifestants. Une fois arrivés sur les marches du Capitole, malgré les matraques et les gaz lacrymogènes, certains évoquent le fait qu'on ait sous-estimé le nombre de manifestants. Alors, 2 choses. Selon le commissaire de la police métropolitaine, les forces de sécurité avaient la foule sous contrôle jusqu'à ce qu'ils arrivent vers le Capitole. Et puis là, changement de comportement le plus complet, une attitude qui a changé de façon spectaculaire selon le patron de la police, avec un déchaînement de violence. Et puis 2e chose, la police du Capitole, c'est pas le SWAT qui est intervenu après, oui, avec ses blindés et son habitude de gérer des choses violentes. La police du Capitole, elle est certes armée, mais elle est plus protocolaire et symbolique. Elle a pas l'habitude de se faire envahir comme ça. Donc effectivement, elle a été contrainte au recul, à devoir reculer.
Ouais, j'imagine que ces actes, Mehdi, ont été publiquement condamnés par la classe politique américaine.
Oui, par les démocrates et par de nombreux républicains, conscients qu'on avait déjà passé un step assez inimaginable, un step symbolique dans l'attaque de la maison du peuple américain, la maison de la démocratie directe. Écoutez la réaction de la députée démocrate du Missouri, Cori Bush.
Nous présentons une résolution appelant à ce que les membres républicains du Congrès qui en faisaient partie soient écartés du Congrès. Ce ne sont pas des manifestants, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui, c'était de la violence qui sévissait dans notre capitale. Le sang de cette femme est sur les mains de Donald Trump et sur les mains de chaque membre républicain du Congrès.
Donald Trump a du sang sur les mains, les mots sont assez forts.
Les mots sont très forts, Mehdi. Du coup, des membres du gouvernement américain auraient discuté de la possibilité d'écarter Donald Trump du pouvoir.
Oui, leurs échanges ont porté sur le 25e amendement de la Constitution américaine qui autorise le vice-président et une majorité du cabinet à déclarer le président inapte à exercer ses fonctions, selon différents médias américains qui s'appuient sur des sources anonymes. Aucune proposition formelle n'a encore été présentée au vice-président Mike Pence. Plusieurs élus et éditorialistes de grands quotidiens ont plaidé ouvertement pour cette option, même s'il ne reste plus que quelques jours de mandat pour le président actuel. Tous les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des représentants ont adressé un courrier à Mike Pence pour lui demander d'invoquer ce 25e amendement dans l'intérêt de la démocratie. Pour eux, le président est malade mentalement, incapable de gérer et d'accepter les résultats des élections de 2020. L'influent Washington Post a également plaidé en ce sens en éditorial très sévère. Pour les éditorialistes, le président est responsable de l'acte de sédition survenu au Capitole. En tout cas, cette désastreuse opération a achevé de briser en mille morceaux le parti républicain entre ceux qui ont suivi Donald Trump aveuglément et puis ceux qui se sont rebellés très tôt, même aussi tardivement, contre son obsession de se maintenir au pouvoir coûte que coûte.
Une Amérique plus divisée que jamais, on n'arrête pas de le dire, mais là, c'est flagrant et on l'a vu en direct hier soir. Merci beaucoup, Mehdi Khelfat. Bonjour, Serge Jomain. Est-ce que Serge Jomain est avec nous ?
Oui, je vous entends.
Co-directeur d'Américas, le Centre d'études des Amériques, et professeur d'histoire contemporaine à l'ULB. On va voir quelles peuvent être les suites à ces événements que vous avez suivis, vous aussi, hier soir à la télévision, j'imagine, avec surprise et sidération. Est-ce que Donald Trump peut encore rester président pendant les deux semaines qui lui restent, jusqu'au 20 janvier, date de l'investiture officielle de Joe Biden ?
Ah, il est clair qu'aujourd'hui, il est le président des États-Unis. Il a toutes les compétences du président. Alors, bien entendu, on invoque la possibilité d'utiliser ce 25e amendement qui date de 1967, qui a été passé un petit peu après le décès de Kennedy. On a eu des situations, notamment un peu après la Première Guerre mondiale, où Wilson était très malade et où son épouse a joué un rôle très important pendant cette maladie. Donc, il est possible effectivement d'essayer d'utiliser des éléments qui se trouvent dans la Constitution, mais il faut bien se rendre compte que ici, en principe, on serait beaucoup plus dans une procédure de destitution, d'impeachment en fait, parce que utiliser le 25e amendement, c'est essentiellement quelque chose qui a été prévu lorsque le président est tué, lorsqu'il est très gravement malade et dans l'impossibilité d'exercer ses compétences. Alors ici, on parle de la folie de Trump éventuellement. Il faut savoir qu'on a déjà évoqué ceci voici à peu près 2 ans, mais c'est très difficile puisque le vice-président doit d'abord déclarer cela et avec un certain nombre de membres de l'entourage de Trump, et il aurait la possibilité de le contester. Alors ici, à moins de 15 jours de la fin de son mandat, je pense que il semble difficile d'imaginer que le vice-président ira dans ce sens-là.
Ouais, peu probable, Serge Jomain, selon vous, on l'a compris, d'invoquer ce 25e amendement. Est-ce que c'est un incident sans lendemain, ce qui s'est passé hier soir, où ce genre d'image va se répéter aux États-Unis ? Certains parlaient hier de climat de guerre civile.
Alors, on parle avec Trump depuis longtemps de guerre civile. Rappelez-vous, au moment des élections, ces commerçants qui se barricadaient, qui craignaient une révolte au sein même de la capitale. Finalement, rien ne s'est produit. Mais il faut dire que ce qui s'est passé hier, c'était finalement le dernier acte lié à l'élection, puisque d'une part, on a eu cette élection en Géorgie et avec, on le rappelle, deux candidats démocrates qui ont, contre toute attente finalement, par rapport à ce qui était attendu au début, remporté l'élection. D'autre part, c'était le jour de la certification, quelque chose qui est une formalité, c'est-à-dire que l'on dépouille les votes exprimés par les grands électeurs. Donc c'était finalement le dernier moment où les partisans de Trump pouvaient se mobiliser. En tous les cas, le résultat, c'est un formidable gâchis, un gâchis pour les États-Unis. C'est très grave pour les institutions démocratiques américaines. C'est très grave pour l'image de marque aux États-Unis. Imaginez un peu lorsque Biden ira discuter avec des autocrates un peu partout dans le monde. Ils sont déjà d'ailleurs en train de se féliciter en indiquant « Regardez ce que peut donner la démocratie américaine ». Et c'est globalement aussi un gâchis pour les républicains. Medical Fat vient de le dire, il est très probable que le parti républicain va devoir réfléchir à ce qui vient de se passer et on verra s'il arrive à maintenir son unité. Et finalement, c'est un formidable gâchis finalement pour Trump lui-même qui montre à quel point c'est un très mauvais stratège, parce que tout ceci est en train de se retourner contre lui. Imaginez, voici quelques jours, on pensait encore qu'il serait un vrai candidat potentiel pour les élections de 2024. Je pense qu'aujourd'hui, le soutien dont il bénéficie dans l'opinion a probablement commencé à diminuer.
Merci pour cette analyse, Serge Jaumin, co-directeur d'Americas et professeur d'histoire contemporaine à l'ULB. On rappelle que ces événements hier soir au Capitole à Washington ont fait 4 morts, une cinquantaine de personnes qui ont été arrêtez. Dans quelques instants, on vous parle d'un livre qui fait beaucoup de bruit en France et puis on revient aux États-Unis. Mais tout de suite, à 7h24, l'infotrafic avec Jean-Marc Strel. Est-ce que ça roule bien, Jean-Marc ?
Oui, on vous tient au courant évidemment concernant les chutes de neige sur l'est du pays. Pas de conséquences pour l'instant. Un véhicule est en feu sur le 19, c'est la seule info. Envers Bruxelles, hauteur de Malines Nord, deux bandes de circulation sont neutralisées en direction de Bruxelles.
Un SUV modulaire et des dimensions compactes ? Skoda Karoq, ne faites plus de compromis. Matin première.